Et notre invité ce matin, Damien Scano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué régional de la CNAP et directeur de l'ADSEA dans les Alpes de Haute-Provence. Tout d'abord, une question extrêmement simple, mais la CNAP, c'est quoi? On sait que ça a été créé en 1948, mais c'est une fédération aujourd'hui qui regroupe des associations autour de la protection de l'enfance.
Bah oui, c'est tout à fait ça. La CNAP est la fédération des associations de protection de l'enfance, donc toutes les associations en France qui interviennent auprès des enfants et qui portent des missions de protection, soit dévolues par l'État ou les départements.
C'est quoi votre rôle au sein de la CNAP? C'est de porter la voix des associations de la protection de l'enfance, d'être un peu, pas un syndicat, mais en tout cas une sorte de lobby de la protection de l'enfance?
Oui, c'est tout à fait ça. Notre mission, c'est de porter la voix d'abord des enfants, au travers les associations qui œuvrent pour le bien-être de ceux-ci. Donc, au travers la défense des associations qui portent ces missions, c'est les droits des enfants que nous voulons promouvoir.
Alors, c'est vrai que pour certains auditeurs, la protection de l'enfance, c'est une notion qui est assez floue et qui recouvre en même temps aussi beaucoup de thèmes, beaucoup de secteurs, beaucoup d'actions.
Oui, tout à fait. C'est un champ extrêmement large. Ça va du secteur de la prévention primaire, où nous intervenons dès le plus jeune âge pour accompagner les parents dans la découverte de leur rôle de parents, qui est pour nous tous une grande évolution du passage de l'âge adulte jusqu'à des situations évidemment plus importantes et plus graves, où nous devons intervenir pour suppléer de temps en temps les parents qui sont en grande difficulté et qui mettent leur enfant en danger. Donc le champ de la protection de l'enfance, ça va de la prévention à la prise en charge. Donc c'est un champ extrêmement large.
Et c'est ce qu'on appelle aussi les placements. Alors le social et le médico-social, ce sont des secteurs qui ont toujours un peu souffert quand même ces dernières années, et souffert notamment d'un problème d'attractivité. Mais avec la pandémie de Covid-19, est-ce que le social et le médico-social sont un peu plus malades aujourd'hui?
Ils sont beaucoup plus malades, parce que c'est vrai que durant cette période, à juste titre, nous avons mis les soignants au devant de la scène, les soignants qui nous ont accompagnés durant cette période de pandémie, mais en second rang, il y a eu plus d'un million de salariés de l'invisible qui accompagnent au quotidien 10 millions de nos concitoyens, 15% de notre population. C'est le champ du social, du médico-social, qui accompagne les personnes handicapées, les enfants, les femmes victimes de violences, les personnes âgées. Tous ces personnels sont restés au front, mobilisés pendant cette période, sans aucune revalorisation. Donc l'attractivité a subi une chute considérable pendant ces deux années que nous venons de traverser.
Sans aucune revalorisation, pourtant à un moment il était évoqué que, notamment le Ségur, dont on a beaucoup parlé, le Ségur puisse bénéficier au secteur du social et du médico-social.
Et oui, et le Ségur a aggravé cette situation, parce que le Ségur bénéficie aux soignants du social et du médico-social.
C'est-à-dire à qui, très précisément?
Très précisément, les infirmiers, les aides-soignants qui parfois interviennent dans nos structures vont avoir une revalorisation, ce qui va créer une rupture d'équité dans nos établissements, puisqu'un même professionnel qui interviendra dans une structure de soins ou une structure de prise en charge aura ou n'aura pas cette revalorisation. Je vais vous donner un exemple très concret sur un métier qui n'est pas un métier du soin. Demain, un cuisinier dans un établissement financé par l'État au titre de l'assurance maladie va avoir la revalorisation du Ségur, donc 198 euros de plus net par mois. Le même cuisinier dans une maison d'enfants à caractère social qui fait la cuisine pour un groupe de 40 enfants qui sont accompagnés au titre de la protection de l'enfance n'aura pas cette revalorisation. Et ça se décline pour tous nos métiers. Donc nous souffrons déjà d'une baisse d'attractivité puisque nous sommes des métiers peu rémunérés. Nous allons accroître cette difficulté d'attractivité en créant de la compétition entre le champ du soin, le champ de l'accompagnement, une inéquité de traitement qui va nous mettre en extrême difficulté.
Ouais, métier peu rémunéré, c'est ce qui explique aussi le manque d'attractivité. Et puis aussi, on peut le préciser, dans certains secteurs, dans certaines associations, des métiers qui demandent aussi une grande disponibilité horaire.
Bien
en
sûr.
Tout cas, de mettre aussi sa famille en arrière-plan.
Alors, bien sûr, c'est des métiers d'engagement depuis toujours. Lorsque vous accompagnez des personnes en difficulté, c'est des moments de vie partagés. Donc, des moments de vie partagés le matin, le soir, le week-end, les jours fériés. Ça demande un engagement extrêmement fort. Et aujourd'hui, la revalorisation n'est pas à la hauteur de l'engagement que portent ces salariés.
Donc, il faut augmenter aujourd'hui, finalement, les salaires, c'est ce que vous demandez? Vous demandez quoi? Que le Ségur s'adresse aussi au secteur du social et du médico-social, à toutes les professions de ce secteur?
Oui. aujourd'hui, nous demandons une revalorisation générale de l'ensemble des salaires du secteur social, médico-social, des métiers de l'humain, tout simplement. Mais ce n'est pas uniquement une question de revalorisation salariale. Aujourd'hui, c'est la porte d'entrée. C'est incontournable, les écarts sont trop importants. Mais nous demandons une prise de conscience de la nécessité de ces métiers, un vrai projet social et médico-social pour les 15% de la population que nous accompagnons, pour qu'ils soient plus des invisibles. Au travers de l'invisibilité de nos professions, c'est l'invisibilité des personnes que nous accompagnons qui est stigmatisée. Il faut absolument que la société prenne en compte que 15% de nos concitoyens ont besoin de nos professionnels pour vivre, pour être accompagnés, pour être inclus dans notre société. Au travers de la revalorisation de nos professionnels, on veut que les personnes en difficulté reprennent une place dans notre société.
Alors ce message, vous l'avez adressé cette semaine auprès des préfets de départements un peu partout sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une alerte que vous avez fait parvenir aux préfets pour qu'ils remettent ensuite officiellement au gouvernement. Donc on le sent bien dans votre discours, à la fois vous alertez la population, vous alertez le gouvernement, mais est-ce que vous alertez aussi, par exemple, les régions, voire même les départements? Départements, c'est l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, donc forcément, c'est eux aussi qui sont en première ligne avec le secteur social et médico-social.
Oui, bien sûr, nous interpellons tous les décideurs, tous les chefs de file et responsables de nos politiques. Vous le dites à juste titre, la protection de l'enfance, c'est une compétence des départements. Le handicap, c'est une compétence croisée entre le département et les services de l'État. Nous interpellons tous nos financeurs. Ils doivent se réunir collégialement, ils doivent faire groupe et ils doivent faire front pour nous aider dans nos difficultés. Vous savez, le Premier ministre nous a promis une grande conférence des métiers. Une première date avait été annoncée le 15 janvier. Elle vient d'être repoussée au 18 février. Il faut que ce rendez-vous soit pas un rendez-vous manqué. 1 million de salariés attendent de cette rencontre un vrai changement pour toutes les politiques publiques, qu'elles soient portées par l'État ou par les collectivités territoriales.
Alors, vous le disiez en tout début d'interview, avec la pandémie de Covid, le secteur social et médico-social est un peu plus malade aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a des absentéisme Covid. On l'a dit, il y a des difficultés aussi de recrutement. Et puis, il y a eu aussi certaines suspensions dues à l'absence de vaccination. Seriez-vous à dire aujourd'hui que ces professions sont en état de burn-out ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, les salariés qui restent auprès du public sont à bout. Nous sommes avec des effectifs extrêmement réduits. Malheureusement, certains de nos établissements ont dû fermer. On a dû demander, par exemple, à des parents de reprendre à domicile leur enfant handicapé. Je pense que la situation est gravissime, gravissime pour nos professionnels qui sont usés, mais surtout gravissime pour les gens que nous accompagnons, puisque nous en sommes à des ruptures d'accompagnement, à des retours en arrière par rapport aux prestations de qualité que nous voulons apporter à ces publics-là. La situation est vraiment très dégradée.
Et est-ce que la mesure du désastre semble être prise aujourd'hui quand vous avez rencontré la préfète, notamment dans les Alpes-de-Haute-Provence?
Alors, sur le 04, on se sent écoutez, mais notre discours doit être porté, comme vous l'avez dit, au niveau régional et au niveau national. Et j'ose espérer que ce rendez-vous proposé à la conférence des métiers sera le début d'une vraie prise de conscience. Mais nous voulons des preuves, nous voulons vraiment des actes et nous sommes vraiment très attentifs à la manière dont le gouvernement va répondre à nos inquiétudes.
Vous le disiez, aujourd'hui, certains établissements ont dû fermer. Est-ce que vous avez un chiffre en tête au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, voire même dans les Hautes-Alpes ou dans les Alpes d'Haute-Provence?
Alors, je n'ai pas de chiffre spécifique sur les fermetures, mais sur le manque d'attractivité, je peux vous donner un exemple très concret, un chiffre vérifié. Dans le département des Bouches-du-Rhône, il y a 400 emplois non pourvus dans notre secteur. 400 emplois. Ce qui veut dire derrière qu'il y a un nombre important d'enfants, de familles, de personnes en difficulté qui ne sont pas accompagnées.
Alors, en même temps, et ce sera ma dernière question, je vous demanderai malgré tout une réponse rapide. Il y a ce fameux projet de loi relatif à la protection des enfants. Delphine Bagary, la députée des Alpes-de-Provence, justement, en a parlé hier. Elle disait que les travaux parlementaires ont permis d'enrichir le texte. Plusieurs mesures vont améliorer le sort des enfants confiés à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, et notamment la continuité de l'accompagnement après la majorité. Alors, il y a d'autres dispositifs, hein, notamment pour faciliter la vie quotidienne des enfants, des familles d'accueil, la préservation des fratries, les possibilités d'accueil intrafamilial ou chez un tiers digne de confiance, ou encore la volonté d'en finir avec le logement à l'hôtel et l'amélioration de l'encadrement des enfants. Mais je reviens quand même sur ce point. La continuité de l'accompagnement après la majorité, ça veut dire encore une lourdeur d'accompagnement au niveau du secteur social et médico-social où c'était essentiel?
Bien sûr que c'était essentiel. On ne peut pas entendre que la majorité, un âge administratif vienne marquer la fin d'un accompagnement qui doit s'inscrire dans le temps. Mais justement, nous sommes excessivement satisfaits que ce texte de loi a été voté, même si on le voulait plus ambitieux. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de porter les éléments supplémentaires et les droits supplémentaires qu'ils octroient aux enfants et aux jeunes adultes.
Donc ça n'est pas en adéquation. On fait un projet de loi pour la protection de l'enfance qui va plus loin, mais en même temps, on n'a pas les moyens pour pouvoir le mettre en place.
C'est tout à fait ça.
Merci beaucoup Damien Scano d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1. Je rappelle que vous êtes donc le délégué régional de la CNAP, directeur de la DSEA dans les Alpes-d'Haute-Provence, le secteur du social et du médico-social qui alerte sur ces difficultés. Merci beaucoup.
Merci à vous.